Oscar Miloš, extrait de Contes et fabliaux de la vieille Lituanie, le statuaire, l'évêque et les 12 apôtres. Un jour, un maître statuaire étranger fut mandé par un évêque à Vilna pour orner la cathédrale de cette ville d'une représentation des 12 apôtres. Le prélat, talonné par une cérémonie d'apparat qui se préparait dans son église, donna au sculpteur une année à peine pour achever son ouvrage. On tomba d'accord sur un prix de 3000 ducats, et l'artiste, après avoir choisi lui-même ses bois dans la forêt de Biélovéyé, attaque joyeusement la délicate et blonde substance. L'évêque, ami passionné des arts, visitait presque chaque jour l'atelier. Un large hanap plein de toquets dans une main, dans l'autre, un vaste mouchoir à ramages avec quoi il épongeait sa face, Monseigneur se délectait aux facéties du maître comme au transport où le jetaient les progrès, ici d'une tête, là d'une jambe, et plus loin d'un dos ou d'un bras. La femme du statuaire, fort avenante et passablement délurée, prenait part à ses entretiens et y faisait étalage d'une connaissance du corps masculin qui en disait long sur l'intérêt qu'elle y prenait. L'année tira à sa fin et, sur les 12 apôtres, 9 seulement étaient prêts à affronter le regard de Sa Majesté et de la cour. Le prélat, qui se trouvait alors à Druya, dépêchait courrier sur courrier au pauvre sculpteur affolé pour le tenir en haleine, lui annoncer son retour imminent et le menacer des foudres de l'église et de la disgrâce du prince en cas de retard dans la livraison. Vous, qui êtes ce qui s'appelle une vraie fille d'Ève, dit un jour l'imagier à sa femme. Que feriez-vous, je vous prie, à ma place? Il ne nous reste plus qu'une malheureuse huitaine, et je défie le diable en personne de me fabriquer, même avec votre précieuse collaboration, 3 apôtres en un espace aussi court. Si vous connaissiez le diable et les dames, lui répondit la Luronne, vous vous garderiez bien de tenir pareil langage, qui me semble, sauf votre honneur, tout au plus digne du malheureux cornard que vous êtes. Voilà bientôt 10 ans que nous sommes mari et femme, et je vous trouve tout aussi simplet qu'au premier jour. Il y a du vrai dans ce que vous dites, j'en conviens, mais un bon conseil vaudrait mieux que toutes ces coxigrues qui ne sont guère de saison. Que faire, Mordienne, que faire? Un petit voyage, monsieur. Cela vous distrairait et me permettrait de vous tirer d'embarras. Que diriez-vous si, à votre retour, vous trouviez au logis les 3 saints qui vous donnent tant de tourments? Je dirais en toute vérité que je vous ai toujours soupçonné capable d'en faire damner 3 fois ce nombre, madame. Et, sur cette saillie d'un goût détestable, notre Pygmalion poudré et musqué fit la pirouette et courut prendre la diligence. Ceci se passait à une époque où les moscovites n'étaient pas encore les maîtres de la Lituanie, mais où leur Messaline, prétextant l'anarchie honteuse qui régnait dans le royaume voisin, gouverné par son greluchon, commençait à prendre pied dans le malheureux pays. Les Mongols de la Moscova et de la Neva traînaient à leur suite toute une nuée d'aumôniers orthodoxes. Parmi ces derniers se trouvait un pope revêtu d'une dignité éminente et qui se consumait pour la belle épouse du statuaire de feu dévorant. Le galant n'eut pas plutôt appris le départ de l'écervelé époux qu'il adressait à notre gaillarde un poulet où la violence de l'amoureux délire trouvait son expression la plus fidèle dans l'estimation de la valeur marchande de ses appâts. Ébloui par la magnificence asiatique de cette offre, la gourgandine, qui avait en outre un projet en tête, promit à son Céladon de couronner le soir même à 9 heures sa flamme. Elle remettait la plume dans l'écritoire lorsqu'un autre billet galant de la main du vicaire du pop venait lui brûler les doigts. « Je vous recevrai ce soir à 10 heures. » Telle fut la laconique réponse de la déesse. Enfin, à la tombée de la nuit, le jeune chantre vint en personne solliciter la même faveur. Elle eût été bien aise d'essuyer son feu le premier, à cause de sa jeunesse et de son ardeur. Toutefois, fidèle à ses engagements autant qu'à l'ordre prescrit par la hiérarchie, elle se résigna à laisser se morfondre jusqu'à 11 heures le jeune psalmiste et son éloquente cithare. Le coucou de la pendule en était à son 9e appel lorsque le pop, sur l'ordre express de la drôlesse ennemie de tout voile, apparaissait nu comme la main dans sa ruelle. La première escarmouche venait à peine de prendre fin quand un coup dans la porte fit tressaillir l'heureux vainqueur. « Ciel, c'est mon mari !» lui souffle à l'oreille la coquine. « Courez vite vous cacher dans l'atelier attenant !» Elle le poussa elle-même dans le réduit où les 9 apôtres dressaient leurs silhouettes immobiles dans un clair-obscur impressionnant. Placez-vous à leur côté et faites le 10e. Le pop, plus mort que vif, s'empressa d'obéir à son injonction. Elle retourna aussitôt dans sa chambre et ouvrit au vicaire. Dès que celui-ci eut sacrifié aux grâces, un nouveau grattement se fit entendre à Luis, et le jeune homme courut prendre rang auprès des 10 apôtres dans le retrait voisin. Le pop reconnut son vicaire. La frayeur le mua du coup en véritable statue. Le beau chantre adolescent grimpa à son tour à l'assaut, et ce dernier combat fut un peu plus long que les 2 autres, car le cœur y eut peut-être son petit mot à dire. Mais un nouveau bruit finit par se faire entendre à l'entrée. Le chérubin sauta dans l'atelier, et lorsque l'apostolique compagnie fut au complet, le statuaire, tout heureux de retrouver ses pénates, se glissa dans l'alcôve et salua gracieusement sa tendre moitié. Celle-ci le fit aussitôt asseoir sur la couche conjugale, lui conta avec force détails piquants ce qui venait de se passer, lui glissa dans le jabot les roubles d'or pris de sa complaisance et l'attira finalement dans ses beaux bras pour le remercier de lui avoir obéi comme de coutume pour son plus grand bien et sans qu'il en coûtât trop à son honneur. Or, l'aimable créature avait combiné toute cette affaire de manière à la faire coïncider avec le retour de l'évêque. Le sculpteur folâtrait encore avec son légitime modèle quand la grosse voix de sa grandeur éclata tout à coup dans l'antichambre. Les 2 époux n'eurent que le temps de se draper dans les rideaux arrachés à leur couche. « Mes apôtres sont-ils prêts? Vous n'avez pas oublié, j'espère, que c'est demain le grand jour. Les officiers de la maison du roi occupent déjà le château. On n'attend plus que Sa Majesté, et moi-même, je passe la nuit à la cathédrale. » « Tout est prêt, monseigneur. Les 12 apôtres, et surtout les 3 derniers-nés, brûlent de vous présenter leurs devoirs. » Et le roué courut ouvrir à 2 battants la porte de l'atelier. Ne se sentant pas de joie, l'excellent prélat, suivi de l'infatigable maîtresse du logis, fait aussitôt 3 pas en avant et s'arrête dans l'embrasure, frappé de la beauté étrange du spectacle qui s'offre à sa vue. La lune sortait justement d'une mer à la fois houleuse et immobile de grands nuages, et par la baie ourlée de paysages de givre, elle versait sur le galetas où régnait un antique et poudreux désordre sa persuasive et sainte clarté. toute chose apparaissait baignée d'un mystère et d'une paix de vigile. C'était une de ces nuits comme il n'en éclot qu'au ciel de la Lituanie. Pur et pieux berceau des mythes orphiques transplantés dans la profondeur des âges, en Thrace, en Crète et à Délos. La neige des clochers de Sainte Église scintillait dans ce formidable et muet carillon de soleils et de nébuleuses. Où cela, qui n'était pas encore l'appel articulé de Delphes et d'Éleusis, se mariait à la maturité sereine et impérissable du Verbe chrétien, de la puissante voix de l'accomplissement suprême, irrésistible, universel. Pistolet de bois, s'exclama le bon évêque, devant la beauté des douze apôtres, recevant en silence la bénédiction hivernale et nocturne. Pistolet de bois, ils sont admirables. Ah, mon cher maître, vous vous êtes surpassé. Et vous aussi, madame, je vous dois mille grâces pour avoir si bien secondé votre époux. Il y en a un surtout, et il avançait pour mieux dévisager le prêtre schismatique défaillant d'épouvante. Celui-là, tenez, quelle vie, quelle vérité, vite une lumière que je l'examine au jour. On alla chercher un flambeau. Fou de terreur, les trois popes rompent les rangs et au risque de se casser le cou se jettent par la fenêtre. « Pas de lumière, surtout pas de lumière !» crie Coquin, hurla l'évêque. « Les autres foutraient le camp, eux aussi !» Trop fin et trop charitable pour chercher à élucider une aussi étrange affaire, Monseigneur fit porter les neuf apôtres sédentaires à la cathédrale et, le lendemain, présenta en grande pompe et sans leur marquer la moindre froideur l'excellent artiste et son épouse, à Sa Majesté, le beau Stanislas, roi philosophe. On devine ce qui résulta de cette entrevue.